France Culture.
Question d'islam par Al-Benshir. Aujourd'hui, nous parlons de rationalité, du lien entre la foi et la rationalité en islam, un sujet désormais classique, mais là, sa particularité, c'est un programme, une pédagogie pour la science historique avec Hicham Abdelgawad. Hicham Abdelgawad, bonjour.
Bonjour, Aleb Benchir.
Je suis extrêmement heureux de vous avoir via l'application Reportit, puisque vous êtes à Bruxelles. J'aurais souhaité que vous fussiez parmi nous, ici même, dans le studio. Mais nous profitons des moyens techniques pour vous avoir, afin d'aborder ce sujet qui s'apparente davantage en deux temps à une réflexion fondamentale et intellectuelle, et aussi le résultat d'une enquête que vous avez menée auprès de la jeunesse musulmane. Et comme on dit souvent que la foi relève de l'émotion ou de la conscience émotive, comment d'emblée avez-vous abordé cette question de l'approche historico-critique auprès des jeunes musulmans?
Bon, très rapidement, peut-être cette question du rapport entre foi et rationalité, c'est d'abord une question que je me suis posée à moi-même lorsque j'étais un petit peu plus jeune, notamment quand j'ai découvert des approches, disons, historiques et critiques, donc historico-critiques, sur les religions, donc d'abord sur le christianisme, mais ensuite sur l'islam, donc qui est la religion à laquelle je m'affilie. Et je me suis rendu compte assez rapidement qu'il pouvait y avoir des décalages entre ce que les historiens disent sur une religion donnée et ce que les croyants disent sur cette même religion. Et au départ, je pensais qu'il y avait potentiellement une incompatibilité de principe entre l'approche historique et l'approche confessionnelle ou l'approche théologique. Mais je me suis vite rendu compte que du côté chrétien, par exemple, du côté catholique, l'approche confessionnelle faisait bon ménage avec les approches historiques et critiques, et donc qu'on pouvait avoir cette dimension théologique, critique, historique dans le langage de la foi. Mais à mon grand regret, je me suis rendu compte que du côté musulman, cette articulation entre la critique historique et, disons, le langage de la foi n'était pas forcément très bien acceptée, notamment après la lecture d'auteurs comme Nasr Hamid Abu Zayd et Mohamed Harkoun, évidemment. Et donc, au fur et à mesure de mon cheminement intellectuel, je me suis fixé comme objectif d'essayer de voir comment l'approche historico-critique de l'islam pouvait être adoptée dans un langage de la foi. Et donc, comme j'ai eu un passé d'enseignant, je me suis posé principalement la question pour les jeunes générations.
Oui, je réalise, Hicham Abdelgawad, que je ne vous ai pas présenté. Vous êtes docteur en sciences des religions, chargé de recherche en prévention du radicalisme violent, pas pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. D'abord, cette approche historico-critique a l'air d'être, en tout cas, absente ou du moins non imprégnante. Il y a l'absence de cette prégnance de l'approche parce que les jeunes, l'article là est toujours problématique, les jeunes musulmans particulièrement seraient réfractaires à cela parce qu'il résonne avec ce que d'aucuns appellent la raison religieuse dévote.
Oui, il y a un peu de ça, même si je nuancerais quand même par rapport aux jeunes, parce que j'ai l'impression, en tout cas c'est ce qui est ressorti un petit peu de l'enquête, que le blocage à l'approche historico-critique était peut-être un petit peu moins présent chez les jeunes que chez, les moins jeunes. Mais il y a quand même effectivement une tension qui se joue entre une approche qui se, finalement, qui se prive de l'idée de Dieu, de l'idée de révélation, de l'idée de prophétie, et le langage de la foi qui centralise ces notions-là. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans d'autres religions, cette tension a été plus ou moins résolue, mais dans le cadre de l'islam, effectivement, les choses restent un petit peu plus complexes, notamment parce qu'il y a parfois des préjugés du type que l'approche historico-critique serait avant tout une approche européenne, une approche occidentale du fait religieux et qui ferait intrusion dans le monde islamique qui est davantage un monde centralisé sur l'Orient. Et donc il y a un petit peu cette idée que l'approche historico-critique serait le rejeton de l'orientalisme qui serait lui-même le rejeton du colonialisme en vérité. Et évidemment, les choses sont beaucoup plus complexes que ça, mais c'est un des nœuds qui reste encore à dénouer.
Pour peut-être un peu fixer les idées au départ, on parle de l'approche critique ou historique ou critique lorsque on admet que tout est considéré comme vrai et recevable jusqu'à ce qu'une raison donnée montre le contraire, il invalide, alors que l'approche hypercritique, c'est qu'on part de l'idée que tout est suspect ou non encore validé par la science historique notamment, et on part de cette idée jusqu'à ce qu'il y ait une validation par tel ou tel aspect de l'histoire matérielle.
Oui, alors ça, c'est un vaste sujet, la distinction entre une approche critique et les approches qu'on appelle hypercritiques. Je dirais qu'une approche critique se définit d'abord par un certain nombre de suspensions de jugement, notamment des suspensions de jugements moraux. On ne se pose pas la question de savoir si, la question du bien et du mal, par exemple. Une suspension de jugement esthétique, le beau et le moins beau, et surtout une suspension de jugement métaphysique. Donc ce que je disais tout à l'heure, par exemple, sur les idées de révélation, de choses qui relèvent du surnaturel pour aller vite. Donc quand on est dans une approche critique, on ramène l'objet d'étude à sa dimension d'activité humaine. Et on essaye de voir, à partir de cette perspective, comment des textes se font, comment des individus situés dans l'espace et dans le temps interagissent entre eux, et comment l'histoire se fait. Dans une approche hypercritique, c'est vrai qu'on va pousser la logique jusqu'au bout, et alors, dans une approche critique, par exemple, on va considérer que l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence, alors que dans une approche hypercritique, on va considérer que s'il n'y a pas de, enfin, que l'absence de preuve signifie l'inexistence ou l'absence.
Et donc, vous avez comme objet d'étude, en tout cas, qui sont des objets de croyance, et là, le Coran, le prophète, l'eschatologie, ou les fins dernières, la fin des temps, ont été ceux-là, les thèmes sur lesquels vous avez posé vos questions et vous avez mené votre enquête.
La question du Coran, du prophète et la question aussi eschatologique sont des questions centrales dans la croyance islamique. Le Coran, parce qu'il est considéré comme la parole de Dieu révélée. Le prophète, parce que c'est lui qui délivre cette parole dans le monde et qu'il constitue le modèle à suivre. Et l'eschatologie, donc effectivement la fin des temps. Tout simplement parce que, enfin, il faut se souvenir que le Coran, près d'un tiers du Coran est consacré à cette question de la fin des temps, de la résurrection et des événements qui le précèdent. Et donc, lorsque je me suis posé la question de savoir quel était le degré de réceptivité des jeunes musulmans vis-à-vis de l'approche historico-critique, mon hypothèse a été de tester cette acceptance potentielle d'approche historico-critique sur ces trois thèmes qui touchent directement à la fois.
Alors, quels sont les scénarios possibles, les six catégories que vous avez vues ou constatées face à cette approche auprès de vos enquêtés, si je puis dire?
L'idée centrale, je dirais, de l'enquête, a consisté à partir du principe qu'il n'y avait pas de scission entre la vision religieuse qu'on peut trouver chez un jeune et son projet de vie. Et donc, mon idée, justement, dans le cadre de ces interviews, ça a été de poser des questions très larges sur leur vision du monde et leur vision d'eux-mêmes et leur vision aussi de, des actions à déployer dans le monde et leur conception religieuse. Et une des choses dont je me suis rendu compte, c'est que contrairement à une intuition qu'on peut avoir, l'acceptation ou le rejet de l'approche historico-critique de l'islam n'est pas lié d'une part au niveau de pratique et pas lié non plus au niveau de connaissance de la religion. À savoir que j'ai eu des interviewés qui étaient très pratiquants mais ouverts à l'approche historico-critique et d'autres interviewés qui n'étaient pas pratiquants ou quasiment pas pratiquants et qui affichaient pourtant un rejet parfois viscéral de l'approche historico-critique. Et je me suis rendu compte aussi que lorsqu'on pose la question aux jeunes de qu'est-ce que le Coran, qu'est-ce que la prophétie, qu'est-ce que la révélation, les réponses étaient souvent très sommaires avec très peu d'élaboration théologique. Donc il n'y avait pas forcément de clash entre des définitions théologiques très élaborées et ce que peut apporter une approche historico-critique. Et au fur et à mesure de l'analyse, je me suis rendu compte que le curseur principal qui va faire qu'un jeune va être plutôt réceptif ou au contraire réfractaire à l'approche historico-critique avait plus à voir avec la structure de son projet de vie. Par exemple, est-ce que le jeune est plutôt tourné vers le passé ou vers le futur ? Est-ce qu'il prend le passé comme modèle ou est-ce qu'il considère que le passé doit être dépassé ? Est-ce qu'il conçoit la société comme un système d'oppression ou plutôt comme le lieu d'un développement de soi ou d'un épanouissement de soi ? Et donc, je me suis rendu compte que, effectivement, voilà, si l'approche historico-critique est vue comme quelque chose de moteur dans le projet de vie du jeune, cette approche a tendance à être acceptée. Et lorsque l'approche historico-critique est vue au contraire comme un obstacle au projet de vie ou comme l'appui d'un système, par exemple, d'un système d'oppression, là, à ce moment-là, l'approche historico-critique a tendance à être rejetée. Et donc, il y a effectivement plusieurs scénarios qui se présentent. On peut avoir affaire à un rejet complet. Et donc là, en général, c'est que l'approche historico-critique est vue peut-être comme un mode de prédation de la foi, par exemple. Donc l'idée que l'approche historico-critique serait là pour détruire la foi. Donc là, on a affaire à des rejets. Parfois, on a affaire à des contournements, c'est-à-dire que, surtout, par exemple, si on apporte des éléments qui sont issus de la tradition islamique, mais qui peuvent être embarrassantes, bon, par exemple, des récits de guerre ou des choses comme ça qui sont attribués à la figure du prophète, ben, là, il y a une tension qui se met en place parce que d'un côté, ça vient des sources islamiques, donc certains jeunes ont du mal à rejeter de but en blanc ce qui est apporté, mais en même temps, comme il y a un certain embarras, ils ne peuvent pas l'accepter complètement. Et donc là, on assiste à ce que j'appelle des stratégies de contournement, c'est-à-dire qu'on essaye de régler cette tension qui est induite. Mais dans d'autres cas, on peut avoir affaire à un jeune qui accepte cet élément historique, critique qui est apporté et qui essaye vraiment de le réinterpréter de façon à alimenter son projet de vie ou alimenter sa vision du monde. Et donc ça, c'est le cas évidemment le plus favorable si on est favorable à l'approche historico-critique. Et donc tout l'objet de ma recherche et de mon ouvrage, ça a été de voir comment on peut susciter cet intérêt et ne pas aboutir à une situation de rejet.
Et vous le faites avec un distinguo effectué entre, si on reste sur l'objet de croyance qu'est le Coran, entre la charge métaphysique liée à la notion de révélation et le Coran matériel, le codex en quelque sorte. Et s'il y a une étude et une approche historico-critique, elle se fait sur le manuscrit, sur le codex, et non pas sur la partie métaphysique ou sa charge émotionnelle.
Quand on dit que l'approche historico-critique d'une religion se concentre sur la religion ramenée à sa dimension d'activité humaine, alors dans ce cadre-là, si on veut être scientifique jusqu'au bout, il faut vraiment qu'on s'intéresse uniquement aux éléments matériels humainement produit et pas des éléments métaphysiques. C'est-à-dire que là où les personnes qui sont réfractaires à l'approche historico-critique ont raison, c'est sur l'idée que si l'approche historico-critique se mêle de métaphysique et pose des conclusions métaphysiques, là, elle dépasse ses prérogatives et les croyants ont le droit de ne pas l'accepter. Mais en revanche, si l'approche historico-critique est rigoureusement menée et qu'elle s'arrête aux portes d'une interprétation métaphysique, là, les choses rentrent dans l'ordre. Je vais donner un exemple très concret. On prend, par exemple, dans le monde du christianisme, un historien comme Daniel Margera, et qui a écrit, il y a quelques années, un ouvrage qui s'intitule « Vie et destin de Jésus de Nazareth ». En tout cas, quelque chose comme ça, en 2019. Et donc, au début de cet ouvrage, il se pose la question des récits sur la naissance de Jésus. Et il se rend compte que, bah, il y a effectivement un certain nombre de ragots sur la naissance de Jésus, une naissance qui n'aurait pas eu lieu dans le cadre d'un mariage régulier. Et à la fin de ce chapitre, après son enquête d'historien, où il a vraiment mis entre parenthèses la question de la foi, il affirme qu'en tant qu'historien, la seule chose qu'il peut dire, c'est que Jésus est né hors mariage. Et alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire sur un plan métaphysique? Est-ce que hors mariage, ça veut dire naissance miraculeuse, naissance virginale? Est-ce que ça veut dire autre chose? Il ne se prononce pas. Et j'ai été très fort marqué par cette retenue métaphysique, en quelque sorte, c'est-à-dire l'historien qui pose ce que sa discipline permet de dire, mais qui ne pose pas de conclusions qui peuvent avoir des répercussions métaphysiques. Et donc la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on peut arriver à faire la même chose, notamment avec le Coran? Est-ce qu'on peut proposer une étude historico-critique du Coran, mais qui n'empiète pas sur l'origine divine ou autre de ce texte? Et effectivement, l'une des solutions que je propose, c'est de bien distinguer le Coran dans sa dimension métaphysique, donc ce qu'on appellerait « el-Qur'an » en arabe, et le Coran dans sa dimension matérielle, c'est-à-dire le mushaf, le codex, qui est accessible à la raison historique. Et donc, pour moi, vraiment, le désamorçage de l'empiètement métaphysique de l'historien sur le Coran, c'est de se concentrer sur vraiment les masahif, donc les codex, les éditions. On travaille sur des manuscrits, on travaille sur des éditions, on ne travaille pas sur le Coran en tant qu'abstraction.
Oui, si on revient à la métaphore voulue par le théologien Daniel Margera de Lausanne, mutatis mutandis, qui serait l'équivalent de la suspension du jugement sur la naissance de Jésus. Pour le Coran, c'est qu'on travaille sur des Corans physiques qui n'épuisent pas la dimension métaphysique et donc c'est simplement l'expression matérielle qui, elle, est soumise à la critique et soumise à l'histoire matérielle.
Et pour moi, ça doit être un exercice pour les historiens de profession, c'est-à-dire cette capacité à arrêter l'enquête historique là où elle doit s'arrêter et ne pas aller au-delà. Donc, en dehors de ces questions de réception de l'approche historico-critique de la part des croyants, je pense qu'il y a une réflexion qui doit être menée par les historiens. Qu'est-ce que cette discipline permet de dire et à partir de quand est-ce qu'un historien, quelque part, outrepasse ses prérogatives et verse dans une réflexion ou dans une enquête qui devient métaphysique et qui ne porte plus vraiment sur des données matérielles, sur des choses qui ont eu lieu dans l'espace et dans le temps.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Hicham Abdelgawad pour parler de foi et raison, de rationalité en islam, et aussi de cette pédagogie par la science historique que Hicham Abdelgawad, docteur en sciences des religions et chargé de recherche en prévention du radicalisme pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et pour cette deuxième partie, Hicham Abdelgawad, qu'en est-il de la pédagogie du si que j'ai trouvé dans votre ouvrage et dans les stratégies de contournement, vous commencez par dire à vos interlocuteurs « si ».
Donc la pédagogie du si, elle s'inscrit dans cette volonté de ne pas empiéter sur la métaphysique, notamment quand on traite du Coran. Maintenant, c'est pas toujours possible quand on explore tous les outils qui sont à la disposition de l'historien. Je donne un exemple très concret. Un historien peut chercher à l'intérieur d'un texte ce qu'on appelle des interpolations, c'est-à-dire des ajouts tardifs insérés entre deux parties d'un texte et qui n'étaient pas là au départ. Et parfois, certains historiens, en analysant certaines parties du Coran, peuvent envisager qu'il y ait des interpolations. Et ces hypothèses, ces soupçons d'interpolation, peuvent être parfois indépendantes de la nature du manuscrit. C'est-à-dire, c'est vraiment le texte en lui-même, dans sa structure, qui montre un certain nombre d'éléments qui suscitent une présomption d'interpolation. Et donc, dans ce cadre-là, on ne peut pas forcément complètement désamorcer la charge métaphysique de cette approche, mais ce qu'on peut faire, c'est reléguer ce type d'exploration historique au niveau de l'expérience de pensée. C'est-à-dire, on propose à l'apprenant, si on devait considérer le Coran comme étant un texte comme un autre, alors on pourrait envisager qu'il y ait des interpolations. Et donc, voilà comment on procéderait. Et de mon expérience avec les jeunes, le simple fait d'ajouter ce « si », de dire « si on devait considérer le Coran comme étant un texte comme un autre », ça permet de ne pas empiéter sur leur liberté quelque part, sur leur liberté de croyance ou leur liberté de choix métaphysique. Parce que quand on leur dit « si on devait considérer le Coran comme un texte comme un autre », on leur dit en même temps « on n'est pas obligé de le faire ». Mais si on le fait, voilà un petit peu les outils qui se proposent. C'est en gros le parti pris de cette pédagogie du si.
Et de ce point de vue, ce que d'autres préconisent comme une exégèse par le sens, et pour revenir à ce que d'aucuns appellent les clausules, c'est-à-dire les fins des versets, des versets coraniques, quand ça finit par « et ceci est un signe pour ceux qui savent réfléchir », parfois on remplace par « ceux qui sont doués d'intelligence », etc. Il y a l'idée que tant que le sens est préservé, ça importe peu que ça soit pour ceux qui savent ou ceux qui sont doués d'intelligence.
Oui, alors moi peut-être que je formulerai les choses peut-être un petit peu autrement, c'est-à-dire... Je pense qu'une des réflexions qu'il pourrait y avoir, mais ce n'est pas mon rôle en tant que diplômé en sciences des religions, ce n'est pas mon rôle de mener cette réflexion-là, mais on pourrait se poser la question de savoir est-ce que dans le cadre d'une recherche de sens, qui est quand même le but d'une religion, est-ce que les modalités de production du sens, c'est-à-dire la langue, la tournure des phrases, le support des idées qui sont produites, importent autant que ce qu'on a bien voulu nous faire croire pendant longtemps. Je pense que c'est une question qui mériterait d'être posée à des théologiens qui pourraient explorer cette idée que entre le sens et le vecteur de ce sens, c'est le sens qui prime. Et donc dans ce cadre-là, peut-être que effectivement des fluctuations au niveau des formulations, peut-être aussi un certain nombre de choses qui sont apportées par les historiens sur l'histoire d'un texte qui s'est fait avec le temps, pourraient être un petit peu moins compromettants pour la foi.
Alors passons, si vous voulez bien, Hicham Abdelgawad, au deuxième cas d'objet de croyance, qu'est la figure du prophète. Alors, il y a tout un débat maintenant sur l'inflation des aphorismes qui lui sont attribués, et même le fait de considérer sa tradition, la sunna prophétique, comme source de législation. Et le débat sur la tradition prophétique et la figure même du prophète est tout aussi central, particulièrement auprès de ces interviewés auxquels vous avez eu affaire.
J'irais même jusqu'à dire que la figure du prophète est peut-être en un sens plus centrale que le Coran pour ces jeunes. Enfin, pour beaucoup de jeunes. Il y en avait certains pour qui le Coran avait préséance, mais pour beaucoup, lorsque je les ai exposés à des études historico-critiques du Coran, ils ont été moins réfractaires ou en tout cas moins déstabilisés que des études historico-critiques qui portent sur la figure du prophète. Et alors je me suis posé la question de savoir pourquoi. Eh bien en fait, ça a à voir encore une fois avec les projets de vie des jeunes. C'est-à-dire que les jeunes musulmans voient la figure du prophète comme l'homme idéal, comme le modèle à suivre, et ils ont tendance à calquer leur morale sur l'idée qu'ils se font de la morale du prophète. Donc lorsqu'on pose un point d'interrogation historique sur la figure du prophète, on pose un point d'interrogation sur leur devoir être. Et donc, à ce niveau-là, effectivement, le prophète relève plus d'un symbole que d'une personnalité historique. Et là aussi, on peut procéder par un désamorçage métaphysique, c'est-à-dire ne pas empiéter sur sa qualité de prophète, sur sa qualité d'envoyé de Dieu, et vraiment s'intéresser uniquement à sa place en tant que figure historique. Et à ce niveau-là, et c'est là qu'on voit que l'approche historico-critique n'est pas forcément défavorable à la foi. Les historiens, je dirais les plus sérieux aujourd'hui, ont tendance à ne plus prendre en compte les études des historiens du 19e ou du début du 20e siècle qui essayaient de rentrer dans la psychologie du prophète, presque à faire sa psychanalyse. Parfois même, il y a eu des historiens qui ont essayé de proposer des diagnostics psychiatriques sur le prophète, en partant de certains textes qui disent qu'il était pris de convulsions ou de choses comme ça.
Les fameuses crises d'épilepsie.
Exactement. Et à ce niveau-là, la plupart des historiens aujourd'hui vont considérer que poser ce type de diagnostic à 14 siècles d'écart, ça n'est pas sérieux sur le plan historique. Et donc, si on s'intéresse au prophète, à la figure du prophète dans sa dimension historique, alors on ne pose plus les questions. Enfin, il faut éviter de poser les questions de ses intentions profondes, de ses caractéristiques psychologiques. Il faut éviter de faire sa psychanalyse, en quelque sorte. Il faut vraiment s'intéresser à sa place, alors dans sa tribu en Arabie, ou la place que son image a prise, par exemple, sous les Omeyyades ou sous les Abbassides, où il était déjà devenu un symbole à ce moment-là. Et donc, à ce niveau-là, bah, toutes les études qui tentent de faire passer le prophète pour un personnage plus ou moins recommandable sont des études qui deviennent sans objet pour l'historien ou qui deviennent hors de propos pour l'historien.
Pour une personne quelconque, pour un être humain, il y a dans un projet de vie quelque chose qui relève de ce qu'on appelle le devoir être désirable. Et donc pour les musulmans et particulièrement les plus jeunes parmi eux, la figure du prophète devient une figure emblématique parce qu'elle a cette quadruple caractéristique, un messager de Dieu, un coproducteur de la loi religieuse, un support de projection des alternatives existentielles désirables, encore une fois, et de nos jours, pour colmater les failles identitaires, c'est un ciment transculturel.
Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti des entretiens. C'est que, comme je disais, la figure du prophète est devenue un symbole. Et la question de savoir un symbole de quoi, ben, un symbole de ces quatre éléments que vous avez résumés. Premier élément, il est le transmetteur de la parole de Dieu. Donc il y a une dimension métaphysique extrêmement lourde. Mais il est aussi producteur de normes. Et je dirais même, et ça des études l'ont montré depuis longtemps, que lorsqu'on s'intéresse à ce que d'aucuns appellent la loi islamique ou la charia, bon, même s'il faudrait passer énormément de temps à définir ce terme.
Qui relève in fine, après réflexion, à une construction humaine et presque du droit positif.
Exactement, et justement, dans la production de ce droit positif, on se rend compte que les hadiths, donc les paroles, faits, gestes, voire silences du prophète, tiennent une place plus importante que le Coran. On rappellera quand même que la proportion de versets normatifs dans le Coran, qui peuvent s'apparenter à des lois ou à des règles, représente à peu près 3% du corpus. Donc c'est vraiment pas grand-chose, c'est 200 versets à peu près sur les 6234, si je ne m'abuse. Et donc à ce niveau-là, la figure du prophète a été plus centrale, je dirais, dans l'élaboration des lois islamiques, si on peut les appeler comme ça, que le Coran. Mais il y a aussi effectivement cette dimension identitaire du prophète, ce modèle de devoir-être. C'est-à-dire que par exemple, dans mes interviews, j'ai eu un jeune qui m'a expliqué que son but dans la vie, c'était de devenir un bon père, et que le modèle de bon père, pour lui, c'était le prophète. Donc il y a cette dimension qui dépasse quelque part la seule dimension métaphysique ou religieuse. Donc, le prophète n'est pas juste celui qui transmet la parole de Dieu, c'est un modèle de devoir-être qui indique une voie à suivre pour atteindre ce qu'on pourrait appeler une vie bonne.
Une vie bonne, comme disent nos amis les Grecs, et ça reste un modèle identificatoire.
Exactement. Et alors, le quatrième élément, c'est effectivement cette dimension transculturelle de la figure du prophète. C'est-à-dire que si vous prenez, par exemple, un musulman dans les montagnes du Rif au Maroc et un musulman en Indonésie, il n'y a rien sur le plan culturel qui les lie. Ce ne sont pas les mêmes langues, ce ne sont pas les mêmes zones géographiques, ce ne sont pas les mêmes habitudes culturelles, mais le point commun qu'ils vont avoir, ça va être de se référer à la religion qui a été enseignée, transmise par cette figure du prophète. Et alors, toujours dans cette dimension identitaire, il y a aussi quelque chose qui m'a marqué, qui est ressorti des entretiens, c'est le fait que la figure du prophète pouvait être utilisée comme figure de contestation de traditions ou de normes établies ou de normes familiales. C'est-à-dire des jeunes qui vont opposer à certaines exigences, par exemple du père ou de la mère, la figure du prophète en disant « bah toi, papa ou maman, tu me demandes de faire ça, mais le prophète nous a indiqué de faire autrement ».
Et donc ça veut dire que... Le fameux vrai islam.
Exactement. Exactement. Et donc on peut aussi se retrouver dans cette situation où la figure du prophète peut servir de vecteur d'empowerment quelque part, c'est-à-dire c'est une possibilité de reprendre du pouvoir, donc par exemple des enfants sur leurs parents, mais ça peut être aussi des femmes sur leurs maris qui vont opposer le modèle du prophète à ce qu'elles vont potentiellement trouver de discutable chez leur mari.
Oui. Alors vous évoquez une potentialité de blocage sur quatre registres, le registre théologique, puis juridique, personnel et communautaire, pour revenir à ce que nous avions déployé ensemble là. Comment peut-on prévenir ces blocages, puisque vous dites qu'on peut les éviter?
Alors pour la figure du prophète, pour moi, ça passe par une suspension des jugements moraux à son égard, c'est-à-dire, encore une fois, ne pas faire sa psychanalyse, ne pas rentrer dans ses intentions. En tant qu'historien, on va s'intéresser à la place que le prophète a tenue dans sa société, et potentiellement aussi à la façon dont son souvenir a été réapproprié par les sociétés qui sont venues après, mais on ne se prononce pas sur le fait de savoir est-ce que c'était une personne de bien ou non, des choses qu'on va trouver malheureusement dans des réappropriations hasardeuses de l'approche historico-critique, notamment chez des gens d'extrême droite. Et ça, c'est vrai que c'est un réel problème, et je pense que les historiens ont tout à gagner de réaffirmer fortement la neutralité axiologique de leur démarche, c'est-à-dire cette neutralité qui fait qu'on n'est pas là pour distribuer des bons points sur le plan de l'éthique ou de la morale à des figures historiques, mais on est là pour comprendre comment ils se sont déployés dans leur société, comment ils ont été reçus et comment leur souvenir a été réapproprié par des sociétés subséquentes.
Et sur les trois autres registres, si vous le voulez bien, pour ce qui concerne, ça c'est la figure elle-même du prophète comme messager, et donc on est dans un registre théologique pour lequel vous appelez la neutralité axiologique, chère à Max Weber, entre autres. Et pour les aspects juridiques, on ne doit pas juridiciser l'ensemble des aphorismes et des maximes prophétiques.
Ben je pense qu'à ce niveau-là, l'urgence, c'est de comprendre comment ces corpus juridiques se sont formés et d'essayer de voir potentiellement, à l'intérieur de ces corpus, les différentes constructions qui peuvent se dessiner. Et à ce niveau-là, je pense qu'il y a un travail remarquable qui a été fait par l'ensemble des historiens depuis Ignaz Goldziher, et qui montre qu'une large part de ce qui est considéré comme étant des enseignements juridiques de la part du prophète sont en fait des productions ultérieures qui ont été rétroprojetées sur le prophète. Et à ce niveau-là, les études historico-critiques ont énormément de choses à apporter pour essayer effectivement de ne pas faire du prophète cette machine à produire des normes.
Oui, et le plus souvent, sur ordre du prince, on lui attribue d'avoir dit ou enseigné ou préconisé telle chose qui a arrangé le dit prince au moment où il le prétendait.
Oui, c'est-à-dire quand on tombe sur des hadiths qui nous expliquent qu'il y aura un calife qui viendra, qui aura un nez, qui aura telle forme, qui aura telle taille ou qui aura telle coupe, bon, on peut supputer effectivement que c'est une commande qui vient d'en haut pour crédibiliser le calife en place, quoi.
Comme certains califes se présentent comme l'ombre de Dieu sur terre, ça, légitimer un pouvoir politique par le recours à la religion n'est pas nouveau et depuis toujours quasiment, d'où la séparation des deux ordres. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons de foi, de raison et tout particulièrement de cette approche pédagogique par la science historique, c'est cette rationalité en islam dans un travail d'enquête de grande ampleur mené par Hicham Abdelgawad, docteur en sciences des religions, chargé de recherche pour la Fédération Wallonie-Bruxelles afin de lutter et de prévenir le radicalisme et les dérives radicales violentes. Pour cette dernière partie, Hicham Abdelgawad, on a encore un objet de croyance, puisqu'on l'a évoqué en début d'entretien, qu'est le cas de l'eschatologie. Et là, quelles sont vos approches concernant les fins dernières ?
Alors, ce qui m'a pas mal étonné, c'est que la question de l'eschatologie...
À signature islamique, bien entendu.
Bien entendu. Que cette eschatologie à signature islamique n'est pas si centrale dans les projets de vie des jeunes. C'est-à-dire que autant l'eschatologie est importante dans le Coran, comme je disais tout à l'heure, près d'un tiers du Coran est consacré à cette thématique, autant chez
parce
les jeunes...
Parce que, pardonnez-moi de vous interrompre, parce que du temps du prophète, on est en Arabie au 7e siècle, on pensait que la fin du monde et la fin des temps étaient proches. On disait même, et moi-même je me réfère à un hadith probablement apocryphe, qu'il aurait montré l'index et le majeur, et il disait ce qui restait à vivre pour les humains, c'est la différence entre l'index et le majeur, en montrant ses deux doigts.
Oui, tout à fait, et même le Coran insiste sur l'imminence de l'heure, hein, comme on l'appelle, l'heure avec un H majuscule, la Sa'a. Notamment, il me semble, ça il faudrait que je vérifie, mais il me semble qu'il y a un verset qui mentionne un dialogue entre Dieu et Moïse, et Dieu qui dit à Moïse qu'il, à propos de l'heure, qu'il la cache à peine. Donc, effectivement, cette idée de l'imminence de l'heure, de la fin des temps, c'est un topos qui est présent dès les débuts de l'islam et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Mais en tout cas dans les projets de vie des jeunes, c'est une thématique qui n'a pas été si centrale que ça. Par exemple, je me souviens d'un jeune qui a beaucoup insisté sur la figure du prophète comme figure d'éthique, figure à suivre, sur l'importance des rituels comme la prière et autres. Mais lorsque je l'ai interrogé donc sur la question de l'eschatologie, par exemple sur la venue de l'antéchrist, Al-Masih al-Dajjal en arabe, à ce niveau-là, sa réponse a consisté à dire « c'est pas forcément quelque chose qui change grand-chose à ma vie ». C'est-à-dire, même si une étude historico-critique venait à montrer que cette figure du Dajjal, en fait, c'est pas vraiment une croyance des premiers temps de l'islam, que c'est peut-être une élaboration postérieure, c'est pas quelque chose de si central que ça. Et c'est vrai que, en dehors de quelques cas sporadiques, il n'y a pas eu énormément de crispation sur cette thématique.
Et ceux qui croient... là, ça renvoie à la fois à une forme de concordisme ou de scientisme de type religieux et aussi à ce que peuvent raconter une certaine littérature, qu'à la fin des temps et à l'approche de l'heure, avec grande tâche, et parmi les signes de l'heure, c'est que le soleil se lèverait de l'Occident, du côté occidental, ce qui n'a aucun sens, mais on trouve certains jeunes gens, y compris ceux qui sévissent sur ces réseaux asociaux parfois, avec l'idée que la Terre qui tourne dans sa rotation freine et même s'arrête, et par le recul, du coup, le Soleil se lèverait du côté occidental. Voilà la meilleure preuve qu'on est proche de la fin des temps.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est quelque chose. Donc c'est l'attitude qu'on appelle l'attitude concordiste, qui consiste à essayer de justifier une croyance religieuse ou un texte religieux à partir du registre de la science. Et c'est vrai que quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que en vérité, quand on creuse un petit peu ces questions-là avec les jeunes, on se rend compte qu'ils ont une conception scientiste de leur religion. Alors, le scientisme, pour rappel, c'est la position philosophique qui consiste à dire que la science n'est pas un moyen de découvrir patiemment, d'approcher le vrai, mais que c'est un discours qui dit le vrai en tant que tel, à l'exclusion de toutes les autres approches philosophiques, artistiques, religieuses ou autres.
Qui ne sont en réalité dans leur discours qu'un amoncellement de phrases au mieux conformes à la grammaire avec un sujet, un verbe et un complément d'objet direct, mais le plus souvent dénué de sens, parler de Dieu, de l'âme, de l'enfer, des anges, n'est pas prouvé scientifiquement. Donc seule la science le discours scientifique dit le vrai.
C'est ça, la science dit le vrai au lieu de le chercher. Et donc ça, c'est la posture scientiste. Et je me suis rendu compte, ça a été vraiment quelque chose qui m'a surpris, que les jeunes musulmans, à bien des égards, sont scientistes. Pour beaucoup, hein, évidemment pas tous, mais beaucoup sont scientistes. Et ils ont tendance à déporter ce scientisme sur la religion. C'est-à-dire que dans leur chef, la science dit le vrai, et la religion, fonctionnant comme une science, elle dit aussi le vrai. Et donc, on a affaire à ce que j'ai appelé, effectivement, ça peut sembler assez, tenir de l'oxymore, mais on a vraiment affaire à un scientisme religieux. La religion fonctionne comme une science, et la science dit le vrai. Et donc, il y a tout un tas de procédés herméneutiques qui se mettent en place. Par exemple, l'idée que pour prouver, il suffit de citer un texte.
Oui. Qui, dans certains cas, révèle la carence dans les travaux et de recherche en sciences, et notamment en sciences dures ou pures ou exactes. De l'autre, le mot n'est pas de moi, mais je l'assume, la pathologie de ce concordisme, tout ce qu'il y a comme découverte scientifique est déjà en substance ou potentiellement dans le Coran, ou parfois presque au mot près. Tout cela peut être rattrapé, on peut le pallier, cette affaire, avec la triade arkounienne chère à Mohamed Arkoun, mais à laquelle vous avez ajouté autre chose, c'est devenu même quatre verbes à l'infinitif. Pour Mohamed Arkoun, c'est le fait de déplacer, de transgresser d'abord, déplacer et puis dépasser. Il l'a emprunté à son maître Claude Cahun. Mais pour vous, vous dites non, il faut d'abord déplacer, transgresser après, dépasser et finalement se réapproprier. Alors oui, dites-nous pourquoi. D'abord, vous avez ajouté le fait de se réapproprier et pourquoi vous avez mis le déplacement avant la transgression.
Oui, alors ce que j'appelle dans l'ouvrage le néo-geste arkounien, c'est un parti pris pédagogique qui consiste à refuser de répondre frontalement à des formes de dogmatisme. C'est-à-dire que sur un plan philosophique, on peut dire que lorsqu'on répond à une idée, on la prend pour point de départ. Donc, c'est-à-dire que il y a une idée qui me révolte et à laquelle je veux répondre. Le fait d'y répondre, ça revient à la légitimer ou à mettre les projecteurs dessus, en quelque sorte. Et donc, la question que je me suis posée, c'est si j'ai affaire à une forme de dogmatisme à signature islamique ou à voir à signature islamiste, et que je veux éviter la réponse frontale, auquel cas je centralise ce que je souhaiterais justement congédier, qu'est-ce qui s'offre à moi comme possibilité? Et donc là, effectivement, en redécouvrant un peu les travaux de Mohamed Arkoun, je suis tombé sur ce triptyque de transgression, déplacement, dépassement, et que je me suis réapproprié pour centraliser cette idée qu'il faut pas répondre pour casser, mais qu'il faut dépasser une idée qui est fondamentaliste ou qui est dogmatique. Et alors pourquoi est-ce que je mets le déplacement avant la transgression? C'est parce que bon, ça c'est la lecture que j'ai qui est la mienne de Mohamed Arkoun, mais j'ai l'impression que les deux termes sont quelque peu synonyme chez lui, c'est-à-dire que déplacer une problématique, ça revient à transgresser des catégories de pensée. Et quand on transgresse des catégories de pensée, automatiquement, on va déplacer la problématique ailleurs. Dans mon cas, je pense que si on est dans une optique pédagogique, qu'on veut introduire l'approche historico-critique de l'islam auprès de jeunes, il vaut mieux d'abord essayer de créer un déplacement des représentations, un déplacement des problématiques, et ensuite transgresser les limites du dogme. Et pas d'abord transgresser les limites du dogme pour déplacer les réflexions. Donc, ce néo-geste arkounien en quatre temps, il consiste d'abord à essayer de créer de nouveaux réflexes de réflexion sur les sujets qu'on explore. Donc déplacer, par exemple, une question de dogme religieux sur un terrain qui n'est pas religieux, développer de nouveaux réflexes cognitifs, et ensuite revenir sur le terrain religieux, essayer de se dire, avec ces nouveaux outils qu'on a vus par ailleurs, qu'est-ce que ça donne lorsqu'on les applique aux matériaux religieux ? Et là, on se rend compte qu'on transgresse dans le sens où on va au-delà de ce que le dogme permettait auparavant. Et dans le but de quoi ? Pas dans le but de contredire, mais dans le but de dépasser. Je donne un exemple concret, la question du voile. Prenons cet exemple qui est devenu très à la mode, notamment en France. Peut-être que la question de départ, ça peut être est-ce que le voile est obligatoire, oui ou non ? Donc on part de là. Et ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est déplacer la question ailleurs. Par exemple, se poser la question de qu'est-ce qu'une obligation ? Qu'est-ce qu'un acte librement choisi ? Donc on amène la question ailleurs et ensuite on revient sur le matériau religieux et on se rend compte que plutôt que de poser la question obligatoire ou pas obligatoire, on peut se poser la question de savoir quelles sont les raisons qui peuvent pousser à le mettre ou à l'enlever. Donc là on serait dans un questionnement plutôt sociologique. Quel était le sens du voile à l'époque du prophète ? Donc là on serait dans une enquête plutôt historique. Est-ce que ce sens a évolué ? Et donc là on se rend compte que petit à petit, on dépasse la question de départ qui était permis, interdit, halal, haram, wajib ou non, donc obligatoire ou non. On a dépassé cette question-là et on est ailleurs. Et une fois qu'on a dépassé le questionnement de départ, donc effectivement, il y a cette phase que j'ai appelée la phase de réappropriation, qui est le fait de remettre l'apprenant au centre de sa propre réflexion, c'est-à-dire de raconter son propre cheminement. Donc, au fur et à mesure des phases de déplacement, transgression et dépassement, il y a un cheminement intellectuel, mais aussi un cheminement émotionnel. Encore une fois, les questions issues des sciences des religions ou des questions historico-critiques, elles ne laissent pas le croyant indifférent. Elles peuvent susciter des affects chez lui. Et donc, ce qu'on peut faire à ce niveau-là, au niveau de la réappropriation, c'est de lui dire, si tu devais raconter ton cheminement, qu'est-ce que tu nous raconterais ?
Bien, je vous remercie. Merci infiniment, Hicham Abdelgawad. Si nous avions un peu plus de temps et vous reviendriez pour nous parler du geste arkounien, peut-être même de la geste de Mohamed Arkoun, mais ça sera pour une autre fois. L'émission est finie. Merci encore une fois. Vous êtes à Bruxelles. Et chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Vous retrouverez l'émission comme toutes celles de la chaîne sur le site de France Culture et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Cédric Châtelus et la réalisation est assumée par l'ami François Connac.